Le texte que nous allons commenter se trouve au livre d'Esther, chapitre 1, verset 1, au chapitre 2, verset 17. En voici la lecture. C'était au temps de Xerxès. Ce Xerxès régna sur 127 provinces depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Cette époque-là, lorsque le roi Xerxès vint prendre place sur son trône royal de Suse, la citadelle, la troisième année de son règne, il organisa un banquet pour tous ses ministres et serviteurs. L'armée de Perse et de Médie, les nobles et les ministres des provinces vinrent devant lui. Vasti, la reine, avait également organisé un banquet pour les femmes dans le palais royal du roi Xerxès. Le septième jour, le roi était gai à cause du vin. Il dit à Meouman, Bitsa, Arbona, Bicta et Avacta, Zétar et Carcas, les sept eunuques au service du roi Xerxès, de faire venir Vasti, la reine, devant le roi avec le diadème royal, pour montrer au peuple et aux ministres sa beauté, c'est qu'elle était belle à regarder. Mais la reine Vasti refusa de venir selon l'ordre du roi transmis par les eunuques. Alors le roi se mit dans une grande colère et s'enflamma de fureur. Or, toute affaire royale devait aller devant tous les spécialistes de la loi et du droit. Donc le roi dit aux astrologues, « D'après la loi, que faire à la reine Vasti, attendu qu'elle n'a pas exécuté la parole du roi Xerxès transmise par les eunuques ?» Memucan prit alors la parole en présence du roi et des ministres. « Ce n'est pas seulement le roi que Vasti la reine a bafoué, mais tous les ministres et tous les peuples de toutes les provinces du roi Xerxès. S'il plaît au roi, que sorte de sa part une ordonnance royale qui sera inscrite dans les lois de Perse et de Médie et sera irrévocable, selon laquelle Vasti ne viendra plus en présence du roi Xerxès, qui donnera son titre de reine à une autre meilleure qu'elle. » Il y avait à Suse la citadelle un juif nommé Mardoché, descendant de Yaïr, de Chiméi, de Kish, un benjamite, qui avait fait partie de ceux que, de Jérusalem, Nabucodonosor, le roi de Babylone, avait déporté avec Yogakin, le roi de Juda. Or, il était tuteur de Myrte, cette Esther, sa cousine, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille avait un corps splendide, et elle était belle à regarder. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Après la proclamation de l'ordonnance du roi et de son décret, et le ramassage de nombreuses jeunes filles à Suse, la citadelle, sous l'autorité d'Egué, Esther fut emmenée au palais sous l'autorité d'Egué, le gardien des femmes. La jeune fille lui plut et gagna sa faveur. Il se dépêcha de lui donner ses crèmes de beauté et son régime, et de lui donner les sept filles les plus remarquables du palais. Puis il la transféra, elle et ses filles, dans le meilleur appartement du harem. Esther n'avait révélé ni son peuple ni sa parenté, car Mardoché lui avait interdit de le faire. Esther fut donc emmenée près du roi Xerxès, à son palais royal, le dixième mois, c'est-à-dire au mois de Tevet, la septième année du règne. Et le roi tomba amoureux d'Esther plus que de toutes les femmes, et elle gagna sa bienveillance et sa faveur plus que toutes les jeunes filles. Il mit alors le diadème royal sur sa tête, et il la fit reine à la place de Vasti. Il me semble que la manière la plus pertinente de commencer ce commentaire est la méthode historico-critique, une méthode très en vogue parmi nos exégètes et théologiens du moment. Alors c'est une méthode qui consiste à étudier la composition du texte pour voir quand il a été écrit et ainsi essayer de pénétrer l'intention originelle de l'auteur du livre. Et en pénétrant cette intention, nous aurons une des intentions de Dieu. C'est aussi ça l'inspiration. Alors ce texte s'y prête bien. Alors regardons d'abord, il y a deux types d'approches au livre d'Esther. La première consiste à dire que le livre d'Esther est un simple conte, un peu comme le conte des Mille et une Nuits, avec des personnages fictifs, tels, soi-disant, ça reste à prouver, mais ces mêmes exégètes disent que le livre de Jonas et le livre de Job sont aussi des livres un peu écrits à la manière de conte, avec des personnages fictifs, chaque personnage ayant une fonction allégorique ou symbolique. Alors, effectivement, Esther et Mardoché rappellent deux grandes divinités de Babylone, Marduk et Ishtar, la déesse. Alors, il existe bien sûr le mot « pour », qui est un mot d'origine babylonienne, et encore un peu plus loin, même d'origine akkadienne, langue qui fut parlée par les ancêtres des Babyloniens, et Disons, à travers cette fête babylonienne de Pour, était célébrée la déesse Ishtar et le grand dieu babylonien Marduk. Et cette fête de Pour est reprise dans le livre d'Esther, on en explique même l'origine, et ça a donné au pluriel la fête célébrée encore aujourd'hui par le judaïsme, les Purim, Pour étant un peu la désignation au sort. C'est ce qu'a fait après le vilain Haman dans le livre d'Esther qui voulait tuer les Juifs à une date bien définie. Eh bien, il tire au sort et ce sort, c'est pour justement. Donc, fête aussi reliée à Marduk et Ishtar. Cette fête a donné les Purim qui célèbrent justement la victoire des Juifs qui, grâce à l'intermédiaire d'Esther, n'ont pas été massacrés. Alors, effectivement, c'est vrai que Mardoché rappelle bien le nom Marduk et Esther le nom Ishtar. C'est peut-être aussi une reprise, effectivement, de certaines légendes babyloniennes. Mais ici, ce qui est intéressant, si vraiment c'est le cas, c'est l'intention de l'auteur qui a mis des héros humains et non divins. C'est une manière pour lui de nous dire que, certes, il y a de bonnes choses dans les autres cultures, mais Dieu doit rester Dieu et c'est lui qui a le destin de l'humanité entre ses mains, c'est lui qui détient les royaumes et c'est à lui seul que l'on doit se tourner quand il s'agit d'adorer une divinité. C'est un des messages de l'auteur. Ensuite, si nous regardons, ce livre a été probablement écrit pour diverses raisons, non pas à l'époque qu'il relate, c'est-à-dire l'époque des Perses, mais au IIe siècle avant Jésus-Christ. Effectivement, l'époque relatée dans le texte est l'époque des Perses. Il faut savoir, comme le dit le texte, que Nabucodonosor a été le Babylonien qui a déporté les Hébreux, c'est le fameux exil qui a tant marqué les auteurs de la Bible. Et les Hébreux plus généralement. Alors les Babyloniens en 587, d'abord en 597 avant Jésus-Christ, ont fait le siège de Jérusalem. Ils ont effectivement réussi à conquérir Jérusalem et ont déporté le roi Yoachin, dont parle le texte, avec les élites simplement de la ville de Jérusalem. Et Nabucodonosor a mis à la place de Yoachin, qu'il avait emmené en déportation avec sa cour, il a mis à la place Sédécias, un de ses lieutenants, qui devait être une marionnette au service de Nabucodonosor. Sédécias, 10 ans après, croyait pouvoir tenir tête à Nabucodonosor, non pas en s'appuyant sur Dieu, mais sur un allié bien humain, les Égyptiens. Et c'est d'ailleurs une alliance que Jérémie a dénoncée avec vigueur dans son livre. Et en 597, donc 10 ans après, en 587, 10 ans après la déportation du roi Yoachin en 597, Nabucodonosor met de nouveau le siège devant Jérusalem. Mais cette fois-ci, il va effectivement vaincre Jérusalem, point d'Égyptiens à la rescousse, et il va brûler Jérusalem, brûler aussi et détruire complètement le temple. Et là, il ne va pas se contenter de déporter les élites, mais une bonne partie de la population de Jérusalem, quelques milliers de personnes, c'est ce qu'on appellera l'exil. Et pendant de 587 à 537, une bonne partie de la ville de Jérusalem et certains habitants de Juda vont vivre en exil dans un empire païen, à Babylone. Et puis en 537, l'empire babylonien va lui-même tomber sous les coups des Perses, à la tête desquels nous avons Cyrus, qui d'ailleurs est salué à la fin du livre d'Isaïe comme le Messie, celui qui va libérer les Juifs, car effectivement, les Perses ont une politique beaucoup plus tolérante et autorise les déportés à retourner chez eux. Et donc, avec Néhémie et Esdras, dont nous trouvons les livres dans l'Ancien Testament, les Juifs vont retourner à Jérusalem et rebâtir le temple. Vous trouverez aussi un peu cette phase dans le livre d'Agée et de Zacharie. Alors, c'est bien sûr, malgré le retour des exilés juifs sur leur terre, il est bien évident que Juda ne va pas retrouver son indépendance, mais va être sous la tutelle, certes plus tolérante des Perses, mais tout de même sous la tutelle des Perses. Et c'est justement à cette période que fait référence le livre d'Esther, la période, disons, où l'empire perse est gigantesque et a dans son empire le petit royaume de Juda. Alors, ça c'est effectivement quelque chose à situer. Mais ce livre n'a probablement pas été écrit à cette période, mais au IIe siècle avant Jésus-Christ, à la période des Séleucides, C'est une branche qui vient, une branche grecque qui vient des généraux d'Alexandre, lui-même macédonien ou grec. Et les Séleucides, au IIe siècle avant Jésus-Christ, conduisent une politique d'assimilation, qui donne une révolte d'ailleurs sur le territoire de Juda, en la personne des Maccabées. Vous trouverez le récit de ces révoltes dans les livres de la Bible, premier et deuxième livre des Maccabées aux martyrs d'Israël. En cette période, donc, les Juifs, certains Juifs, la conduite de Judas Maccabée notamment, refusent l'assimilation et veulent rester fidèles à leur religion. On comprend bien, donc, dans ce contexte, que le livre d'Esther a eu son utilité, parce qu'ici nous avons une jeune fille qui est à la cour des Perses et qui refuse l'assimilation, et par sa fidélité à Dieu, elle sauve son peuple. C'est effectivement ce à quoi visait Judas Maccabée et tous ses disciples. Donc on comprend l'intention de l'auteur, qui est de nous montrer que finalement, il faut rester fidèle à Dieu, malgré le monde ambiant, et s'en remettre à lui, car il a la destinée des hommes entre ses mains. Un message toujours d'actualité, être fidèle à Dieu au milieu de ce monde. Et alors, la première approche donc, c'est celle-ci, qui dit que le livre a été écrit plus tard, et avec des personnages fictifs. La deuxième approche prend exactement le même principe, qui est que le livre a été écrit plus tard, mais qu'il y a effectivement eu une Esther, et à ce moment précis de l'histoire des Séleucides, eh bien, certains auteurs ont trouvé pertinent de rappeler justement l'histoire d'Esther, qui aurait été donc un personnage bien réel, qui a sauvé les Juifs d'un massacre certain. Donc, quelle que soit l'interprétation d'ailleurs, enfin, ou l'approche, pardon, l'interprétation est la même, remettons-nous-en à Dieu, et soyons fidèles à sa parole et à ses commandements, sûr ou fort de la conviction qu'il finira par triompher, que le destin des hommes est entre ses mains. Donc voilà le message de l'auteur, tout à fait pertinent à notre époque, où nous devons rester chrétiens dans ce monde, être dans le monde, mais non pas du monde. Alors voilà l'interprétation historico-critique qui ne va pas plus loin. Elle sert de préliminaire à l'autre interprétation, beaucoup plus spirituelle et plus riche à mon sens, que nous allons aborder maintenant, par une lecture linéaire. Alors, c'était au temps de Xerxès. Ce Xerxès régna sur 127 provinces, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. À cette époque-là, lorsque le roi Xerxès vint prendre place sur son trône royal de Suse, la citadelle, la troisième année de son règne, il organisa un banquet pour tous ses ministres et serviteurs. L'armée de Perse et de Médie, les nobles et les ministres des provinces, vinrent devant lui. Vasti, la reine, avait également organisé un banquet pour les femmes dans le palais royal du roi Xerxès. Alors, ici voilà les grands de ce monde, qui paraissent tellement éloignés de nous chrétiens qui sommes de simples citoyens. Nous avons parfois l'impression que nous avons bien peu d'influence et un rôle si petit à jouer devant la misère qu'il y a dans ce monde, devant ces politiques qui font et défont le monde bien loin de Dieu. Et pensée à l'esprit, eh bien, nous avons tendance à nous décourager. De même, regardons ce Xerxès et sa cour, c'est aussi symbolique, c'est ça l'interprétation spirituelle en partie, de ce que vivent nos frères. Ils sont loin de Dieu, ils ont leur propre vie sans Dieu, avec leur joie, leur peine, leur cour, si vous préférez, à l'image de Xerxès. Et Dieu leur paraît tellement éloigné. Et si Dieu nous tient à cœur, nous sommes tristes de voir ça, parce que nous avons l'impression que ce qui fait notre vie, nous pouvons tellement peu le communiquer à ces gens qui sont si loin et pour qui Dieu a bien peu d'importance. Alors nous avons cette impression d'impuissance face à cette vie qui se déroule si loin de Dieu. Ce Xerxès qui domine le monde ou la vie de nos frères qui est dominée par un esprit qui est bien loin de celui du Christ. Alors, mais le texte va nous donner de l'espoir. Continuons. Le septième jour, le roi était gai. À cause du vin. Il dit à Meuman, Bista, Arbona, Bita et Avacta, Zetar et Carcas, les sept eunuques au service du roi Xerxès, de faire venir Vasti la reine devant le roi avec le diadème royal, pour montrer au peuple et aux ministres sa beauté, c'est qu'elle était belle à regarder. Nous avons ici un exemple de ce que peut être un monde sans Dieu. Tout homme essaye d'aimer, mais à un moment ou à un autre, un amour qui se coupe de Dieu, comme chez beaucoup de nos contemporains, est un amour qui va être amputé. Et très souvent, cet amour est un amour déficient en ce sens qu'il s'aime lui-même. Finalement, quand on cherche à aimer, on cherche à se faire valoir et on est bien égoïste. Parce que Xerxès n'aime pas Vasti. Il n'aime, si on entre guillemets Vasti, que pour se faire valoir. Eh bien, gardons-nous, nous chrétiens, d'aimer de la sorte, parce que demandons à Dieu dans la prière de nous apprendre à aimer l'autre pour ce qu'il est, d'aimer gratuitement. Et non pas d'aimer avec des arrière-pensées et nos intérêts, présents à l'esprit. Parce que ça, c'est l'amour du monde sans Dieu. Et effectivement, quand on regarde beaucoup de films, quand on regarde nos politiques, quand on regarde nos propres contemporains, les gens qui nous côtoient, très souvent, on parle beaucoup d'amour, mais on aime si peu, parce qu'on aime égoïstement. Même dans un amour entre un homme et une femme, dans un couple, finalement, on essaye de dominer l'autre. Et c'est bien triste. Et seul un retour à Dieu peut nous apprendre à aimer à l'image du Dieu Trinité qui sait se donner et recevoir pleinement. Alors continuons. Vasti refusa de venir selon l'ordre du roi transmis par les eunuques. Eh bien, c'est la conséquence. Si on aime que pour soi-même, il y a dans l'amour, non pas de l'amour, mais des rapports de force. Ça me fait penser au récit de la Genèse, où on dit que Adam et Ève étaient nus, ils n'en avaient pas honte. Et dès qu'ils ont péché, ils ont honte d'être nus. Finalement, on a honte de se livrer, on hésite à se livrer pleinement à l'autre, pensant que si nous nous livrons, c'est une preuve de faiblesse. Et alors, on reste sur ses gardes, on ne se donne pas pleinement à l'autre. Un peu comme Vasti, pour qui les relations sont un rapport de force, c'est une lutte pour vraiment arriver à ses fins, pour dominer l'autre. Tout comme Xerxès, pour lui, c'est l'égoïsme et l'autre sert à se faire valoir. Voilà ce qu'est finalement un monde sans Dieu et ce que petit à petit le monde risque de devenir de plus en plus. Et il l'est déjà dans bien des aspects. Et chez nos frères, souvenons-nous d'une chose. Nos frères ont besoin d'être aimés, ils ont soif d'amour et finalement, ils plongent dans le piège que Xerxès et Vasti ne peuvent eux aussi éviter malgré toute leur puissance. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à aimer et finalement, ils ont toujours soif d'être aimés et d'aimer et ils n'y arrivent pas, tout simplement parce qu'ils ne se tournent pas vers Dieu. Et nous avons un rôle à jouer parce que nous prions le Seigneur pour qu'il, par nous, que le Seigneur fasse de nous des icônes où vraiment les gens arriveront à voir ce qu'est l'amour de Dieu. Un amour totalement gratuit, sans arrière-pensée. C'est-à-dire vraiment que le Seigneur fasse de nous des icônes de son Fils qui s'est livré sur la croix gratuitement pour le salut de l'humanité. Voilà, nous chrétiens, le rôle que déjà nous pouvons jouer. C'est un rôle énorme parce que nous sommes comme des phares qui allons faire prendre conscience à nos frères qu'il existe le véritable bonheur dont ils ont si soif et qu'ils recherchent sans le trouver. Alors, continuons après ce Vasti et ce Xerxès qui nous montrent un petit peu ce qu'est essayer d'aimer sans Dieu, ce que sont les relations humaines sans Dieu. Donc, alors le roi se mit dans une grande colère et s'enflamma de fureur. Bon, ce n'est pas étonnant vu qu'il voulait se faire mousser et l'autre personne refuse finalement de céder à ses caprices. De même, n'utilisons jamais la force, fût-ce même pour... amener le Seigneur. Jamais, jamais, jamais. Il ne faut jamais utiliser la force, il ne faut jamais essayer d'imposer les choses. Comme le Christ, il faut vraiment aimer et prier et respecter la liberté de nos frères. Autrement, nous tombons dans le piège de Xerxès et les relations sont lutte et colère. Or, toute affaire royale devait aller devant tous les spécialistes de la loi et du droit. Donc le roi dit aux astrologues, d'après la loi, que faire à la reine Vasti? Attendu qu'elle n'a pas exécuté la parole du roi Xerxès transmise par les eunuques. Alors là, il y a une troisième composante après l'égoïsme et l'orgueil, il y a l'hypocrisie. Parce que finalement, nous ne nous livrons pas entièrement dans nos relations à nos frères, parce qu'il nous manque l'amour de Dieu qui est pleinement don, eh bien, il y a forcément l'hypocrisie et le mensonge, un double visage. Et c'est ce qui se passe. Xerxès, pour justifier ses caprices, fait valoir une instance plus haute, la loi et le droit. Alors, je ne peux pas m'empêcher de penser que l'enfer est pavé de bonnes intentions. D'abord, nos politiques. Ils arrivent à justifier des politiques d'avortement, etc., la pilule du lendemain, etc., en invoquant de bons motifs. Et pour l'euthanasie aussi, etc. Alors, il n'est pas question de juger ceux qui sont avortés, ceux qui demandent l'euthanasie en tant que tel, mais Si nous prenons une perspective plus large, finalement, beaucoup de cas, notamment pour l'avortement, ce sont des arguments souvent égoïstes. Oh, je suis trop vieux, je suis trop jeune. Oh, pour les autres enfants, il vaut mieux que, etc. Et finalement, on invoque de bonnes raisons pour justifier de mauvais actes. Eh bien, nous gardons-nous de ça. Il vaut mieux toujours prier et méditer et avoir conscience que les commandements de Dieu sont pour notre bonheur et prier le Seigneur pour nous aider à les respecter, plutôt que d'essayer de justifier notre désobéissance à certains commandements. Parce que ça, c'est le début de la fin de notre vie spirituelle. Évitons ce comportement de Xerxès qui, pour justifier ses petits caprices ou des motifs bien mesquins, utilise des motifs plus hauts, la loi et le droit. Et soyons lucides face à nos contemporains et voyons que derrière de bonnes raisons qui sont invoquées, il y a souvent beaucoup d'égoïsme. Hein? Je pense aussi aux trisomies qu'on avorte bien volontiers en disant « Oh, ça va faire du tort à leurs frères et leurs sœurs. Oh, ça va miner la famille, mais quelque part, c'est que les gens n'ont pas envie de s'embêter. » Bon, voilà. Mais soyons lucides devant les choses. Il y a beaucoup d'égoïsme et sous prétexte de bonté, on justifie beaucoup de comportements égoïstes. Soyons lucides par rapport à nous-mêmes, par rapport des fois à nos compromis et par rapport à notre société. Et que fort de cette lucidité, nous sachions aimer et prier pour être de véritables relais de l'amour de Dieu. Alors continuons. Mémoucane prit alors la parole en présence du roi et des ministres. Ce n'est pas seulement le roi que Vasthi, la reine, a bafoué, mais tous les ministres et tous les peuples, toutes les provinces du roi Xerxès. S'il plaît au roi que sorte de sa part une ordonnance royale qui sera inscrite dans les lois de Perse et de Médie et sera irrévocable selon laquelle Vasthi ne viendra plus en présence du roi Xerxès qui donnera son titre de reine à une autre meilleure qu'elle. Alors, il n'est pas étonnant de voir Memucan qui va dans le sens du roi, il ne pouvait pas en être autrement. Donc finalement, on voit bien que le prétexte de la loi, c'est simplement un prétexte et que là, on ne cherche que à, comment dire, céder aux petits caprices du roi, même s'il faut pour cela faire une loi. Pensons à certains de nos politiques et à certaines de nos lois, on verra beaucoup de similitudes. Et aussi à notre comportement, ne cherchons jamais à justifier nos actes injustifiables, en invoquant par exemple la foi ou de bonnes raisons. Soyons lucides par rapport à nos actes. Mais ici, je reviendrai là-dessus, parce que Memucane est un de ces astrologues probablement que consulte le roi. Et ici, l'astrologie et les nouvelles religiosités, qui sont pas si nouvelles d'ailleurs, hein, comme on le voit, eh bien, sont très dangereuses, parce que, au lieu de nous ouvrir à quelque chose de plus grand, à une vision vraiment spirituelle, sous prétexte de fausse spiritualité, elles continuent à nous river les yeux par terre. Finalement, les gens qui consultent leur horoscope, ce n'est pas pour s'ouvrir à un bonheur plus grand, mais pour continuer à justifier leur soif de bonheur à court terme. Et c'est ça qui est dangereux dans les nouvelles religiosités ou dans l'astrologie, c'est que finalement, ce sont sous prétexte de spiritualité, on continue à justifier l'orgueil et l'égoïsme. Et je ne peux pas m'empêcher de penser aussi aux religions orientales, notamment le bouddhisme et l'hindouisme, et dans une certaine mesure l'islam. Quand on regarde le bouddhisme, c'est frappant, et même l'islam. Il y a de bonnes choses, on doit faire le bien, etc. Bon, le bouddhisme, on ne doit pas mentir, on doit aider les autres, etc. Mais quand on regarde, ce n'est que dans un seul but, gagner son nirvana, ou gagner son ciel. Alors finalement, on aime pour sauver sa peau. Et que c'est triste de penser que certaines personnes pensent que c'est le christianisme, mais que c'est faux. Il suffit de relire l'épître aux Romains ou l'épître aux Galates. Dieu nous a sauvés gratuitement son Fils pour nous donner le luxe, si j'ose dire, d'aimer gratuitement. Nous sommes appelés à aimer gratuitement Dieu, juste pour lui, et nos frères, pour eux-mêmes et pour la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas donc d'aimer pour gagner notre paradis, parce que ça, c'est très très loin du christianisme, c'est très très loin, du message biblique de grâce. Nos œuvres ne sont là que pour être gratuites. C'est finalement le fruit de notre amour, de notre relation à Dieu. Nous voulons aimer Dieu parce que nous nous sentons aimés. Nous recevons et en retour, nous voulons donner. C'est exactement la relation du Fils par rapport au Père dans la Sainte Trinité. C'est à cet amour-là que nous sommes appelés, et pas à cet amour que nous donne le bouddhisme, qui est d'essayer pour éviter la souffrance, de faire le bien, pour justement éviter notre propre malheur et gagner notre paradis. Et dans une certaine mesure, c'est ce que fait l'islam aussi. Donc vous voyez, certaines religions, toutes finalement, et les nouvelles religiosités, sont dangereuses dans la mesure où elles nous ferment à la grâce de Dieu. Un petit peu à l'image de Xerxès et de ces Perses qui étaient tellement dépendants de l'astrologie. Donc nous continuons. Il y avait à Suse, la citadelle, un juif nommé Mardoché, descendant de Yaïr, de Shimei, de Kish, un benjamite qui avait fait partie de ceux que, de Jérusalem, Nabucodonosor, le roi de Babylone, avait déporté avec Yogakim, le roi de Juda. Or, il était tuteur de Myrte, cette Esther, sa cousine, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille avait un corps splendide, et elle était belle à regarder. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Voyez, Mardoché est quelqu'un qui a fait partie donc de la première déportation, celle de Yogakim, donc il s'est pris 10 ans de plus que la plupart des Judéas en captivité. Donc Mardoché est un familier de la souffrance, il est avec ses frères. Hein, trop souvent nous croyons que d'avoir les yeux au ciel, c'est d'avoir la tête dans les nuages. Pas du tout. Hein, avoir les yeux au ciel et les pieds sur terre, comme on dit. Mardoché est quelqu'un qui sait ce qu'est la souffrance, qui se tient à côté de ses frères, qui est déporté parmi les déportés. Mais il n'en reste pas moins que devant cette souffrance, Mardoché ne veut pas avoir recours à ses propres forces seulement, à une solution violente. Il fait le parti d'adopter Esther, et c'est ce que nous devons faire. Et ici, vraiment, nous devons passer à une clé importante de l'interprétation spirituelle, qui est l'interprétation allégorique ou typologique. Elle consiste à voir le Nouveau Testament dans l'Ancien, ou si vous voulez, le Christ dans l'Ancien Testament. Ce qui n'est pas dur, dans la mesure où le Christ est le centre du message biblique. Alors Esther est une figure christique, parce que elle est belle, mais fragile. Hein, c'est l'image que l'on se fait d'une femme, surtout dans le milieu juif de l'époque. Les femmes sont belles, sont envoûtantes. Elles ont la beauté de la grâce qui peut sauver. Mais elles ont la fragilité de la grâce qui respecte la liberté des autres. C'est finalement la grâce de Dieu, c'est Esther, c'est Jésus-Christ. Cette beauté de l'amour de Dieu qui peut sauver, qui peut seule, combler notre soif, mais qui est si fragile dans la mesure où elle respecte nos libertés. Eh bien, c'est cette Esther que nous devons adopter, c'est Jésus-Christ. Voyez, au lieu d'avoir recours à nos propres moyens, seulement à nos propres forces, à l'activisme, parfois même à la violence, ou à la colère, nous sommes appelés à adopter Esther face à la situation dans laquelle nous trouvons ce monde sans Dieu, parfois la souffrance à laquelle nous sommes confrontés, à nos frères indifférents. Esther, c'est la grâce. C'est vraiment vouloir aimer les autres, être doux, de la douceur, de la beauté avec eux, et être priant, priant de la grâce de Dieu. Si nous sommes vraiment fidèles, comme Mardoché, à cet amour de Dieu, à cette vision spirituelle des choses, alors nous atteindrons des profondeurs insoupçonnées, nous serons efficaces au-delà de nos espérances, comme la suite du texte va nous le montrer. Donc, Dieu, finalement, cette grâce de Dieu, cette Esther, c'est le Christ, c'est l'homme qui sauve l'homme. Dieu sauve l'homme par l'homme, Dieu veut sauver l'humanité par des hommes, pour justement respecter la liberté humaine. C'est tout le sens de l'incarnation. Si Jésus s'est fait homme, c'est pour qu'un homme sauve les autres hommes. Pleinement Dieu, mais aussi pleinement homme. Dieu se fait homme pour nous sauver dans notre liberté. Et c'est pour ça que nous devons être des incarnations du Christ. Car par notre prière et notre amour, nous sommes des hommes qui offrons notre liberté humaine pour d'autres hommes. Et c'est ainsi que le salut de Dieu se propage, et c'est ainsi que la grâce grandit, et c'est ainsi qu'Esther ira à la cour du roi. Dans le cœur de nos frères, en d'autres termes. Il faut vraiment en être persuadé parce que c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Vous voyez? Donc, prions pour nos frères parce que notre prière, c'est vraiment comme si nous arrosions la grâce de Dieu. C'est comme si par notre prière libre et consentante, notre amour librement consenti dans la prière, eh bien, nous arrosons la grâce de Dieu, nous lui permettons de croître en tout respect de la liberté de nos frères pour qui nous prions. Et cette prière doit se prolonger par notre amour pour nos frères qui vient vraiment valider notre prière. Eh bien, main dans la main, prière et amour pour nos frères, amour doux de la beauté de cette Esther, sont les deux armes que Dieu nous demande de prendre pour vraiment amener des gens à lui. Et pendant qu'on y est, continuons cette interprétation typologique. Vous voyez cette lecture, comme on dit, spirituelle. Ici, Mardoché fait le choix de la spiritualité. Eh bien, quand nous lisons la Bible, il y a deux façons de la lire. Utiliser sa propre intelligence exclusivement pour comprendre à la force du poignet, et très souvent nous restons secs devant certains passages bibliques, ou comme Mardoché, se confier en Esther, adopter Esther, c'est-à-dire faire confiance à l'esprit et chercher une interprétation plus spirituelle. Esther, c'est le message spirituel qu'il y a derrière les pages historiques de la Bible. Les deux sont nécessaires, mais il faut adopter Esther, il faut vraiment se remettre en l'Esprit Saint et lui permettre d'actualiser le message pour nos vies, pour notre âme et pour celle de nos frères. Voyez cette façon de lire la Bible. Alors il y a des clés spirituelles qui permettent d'ouvrir les portes à l'Esprit Saint que j'ai déjà abordées dans d'autres commentaires. Une que je viens de mentionner là est la clé typologique ou allégorique. Voilà, c'est un peu l'Esther à découvrir, le Christ à découvrir dans les pages de l'Écriture. Il faut adopter cette lecture de la Bible après avoir effectivement un petit peu dégrossi le texte historiquement, mais c'est bien loin d'être suffisant. Et surtout, ayons un esprit de prière, comme Mardoché, pour nos frères, etc., pour prier pour eux, pour avoir de l'influence dans leur vie en ce monde, mais aussi de l'influence sur notre interprétation de la Bible. Ayons plus confiance à l'esprit, en l'Esprit Saint, qui va utiliser notre intelligence, bien sûr, mais ayons confiance en lui pour vraiment nous révéler des perles, des esters dans la Bible, plutôt que d'essayer de comprendre exclusivement par nos propres moyens. Alors, continuons. Après la proclamation de l'ordonnance du roi et de son décret, et le ramassage de nombreuses jeunes filles à Suse, la citadelle, sous l'autorité d'Egée, Esther fut emmenée au palais sous l'autorité d'Egée, le gardien des femmes. La jeune fille lui plut et gagna sa faveur. Il se dépêcha de lui donner ses crèmes de beauté et son régime, et de lui donner les 7 filles les plus remarquables du palais. Puis il la transféra, elle et ses filles, dans le meilleur appartement du harem. Esther n'avait révélé ni son peuple ni sa parenté, car Mardoché lui avait interdit de le faire. Alors, adoptons la stratégie de Mardoché, hein, qui est une espèce de continuation de ce que je viens de dire. Esther, suivant les conseils de Mardoché, n'a pas voulu dire quoi que ce soit sur ses origines. Alors peut-être que les gens sauront que nous sommes chrétiens, mais nous serons souvent amenés à nous taire et à témoigner silencieusement. Finalement, notre meilleur témoignage se manifestera par notre prière pour nos frères. Là, nous pourrons vraiment donner de la voix, si j'ose dire, par la ferveur de notre intercession, Mais il faut bien se garder de témoigner trop vite ou d'être trop entreprenant et maladroit et de vouloir imposer les choses à nos frères. Sachons être discrets, de la discrétion de la grâce de Dieu, de la discrétion d'Esther, et prier pour nos frères. Alors, ce qui se passera, eh bien voilà. Finalement, Esther est ramassée et pénètre au palais. Si nous voulons pénétrer dans, avoir, si vous voulez, une influence au cœur de ce monde, et dans le cœur de nos frères, pénétrer dans le palais de leur cœur, eh bien, il nous faut, comme Esther, savoir être humble et priant, être refléter la beauté de la grâce, comme je l'ai dit il y a quelques instants. Et vous voyez, si on prend cette Esther, si l'on prend le Christ, l'arme de Dieu par excellence, eh bien nous arriverons à des choses que nous ne pouvions même pas soupçonner ou que nous n'aurions sûrement pas pu atteindre autrement, par des moyens plus humains. Remarquons aussi que Xerxès fait enlever plusieurs femmes en plus d'Esther. Et très souvent, c'est ce qui se passe. Finalement, nos frères se rendent bien compte, notre monde plus généralement, se rend bien compte que le bonheur matériel n'est pas suffisant. Et finalement, ils ne se tournent pas, exclusivement vers le Christ. Ils recherchent d'autres voies, d'autres religions, d'autres philosophies, d'autres sources, entre guillemets, de bonheur. Mais plutôt que de nous en désoler et de nous crisper, ayons cette foi. Parce que finalement, Esther, le Christ, c'est l'agir de Dieu en notre monde, c'est la réponse de Dieu pour notre monde. Alors, continuons à avoir la foi et à prier, sûr que vraiment, Jésus, la grâce, fera son chemin dans le cœur de nos frères et que tous les concurrents, les fausses idoles, les faux dieux, les vrais idoles malheureusement, seront balayés parce que les gens ne pourront pas s'empêcher de voir que la véritable source est le Christ. Mais pour ça, il faut des Esther qui sachent être discrets et priants. Voilà notre responsabilité. Mais vous voyez, si nous adoptons cette attitude qui est basée sur la foi, sur une vision spirituelle des choses que nous apporte l'Écriture, eh bien, bien loin de nous fâcher, d'être cassants, d'être aigris, des chrétiens finalement qui se referment sur eux-mêmes, nous serons des chrétiens ouverts et lucides, tout en étant lucides bien sûr, mais parce que nous aurons vraiment la foi. Et la foi marche main dans la main avec l'amour. Plus nous aurons la foi, plus nous aurons d'amour, parce que la foi nous apportera la certitude de la patience et de la victoire. Voilà, Il faut vraiment adopter ces armes. Et regardez, Egé, qui cite un relais de Xerxès, ne manquera pas de remarquer Esther. Ils ne manqueront pas de le remarquer. Ayons confiance, parce que ça ne peut être que comme ça. À un moment ou à un autre, les gens, les préjugés qu'auront les gens, etc., sur le Christ vont tomber, parce que par notre amour, nourri par notre prière, eh bien les gens verront qu'il y a quelque chose de vrai dans notre foi, que ça peut ouvrir à des horizons bien plus grands, finalement, que les petits bonheurs qu'ils peuvent rechercher, ou les autres religions, ou religiosités. Alors continuons. Esther fut donc emmenée près du roi Xerxès à son palais royal le 10e mois, c'est-à-dire le mois de Tevet, la 7e année du règne. Et le roi tomba amoureux d'Esther plus que de toutes les femmes, elle gagna sa bienveillance et sa faveur plus que toutes les jeunes filles. Il mit alors le diadème royal sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Eh bien voilà la victoire, elle vient en son temps, elle vient la 7e année du règne, le mois de Tevet. Eh bien soyons sûrs que par notre prière et notre patience, à un moment ou à un autre les choses vont mûrir et la grâce sera suffisamment présente dans le cœur de nos frères pour que leur conscience s'ouvre à elle, s'ouvre à cette grâce. Et alors nos frères consciemment et librement se tourneront vers Dieu, de la liberté que nous leur avons offert par nos prières et notre amour, quand la grâce travaillait secrètement, discrètement en eux, eh bien, ils prendront le relais par leur propre liberté en disant oui au Seigneur. Oui, le dixième mois, la 7e année du règne, le mois de Tevet arrivera. Et alors ils choisiront Esther, le Christ, vraiment la véritable vie, la vie en Dieu, l'amour de la Trinité, l'amour gratuit, l'amour donné, plutôt que Vasti, qui est vraiment le bonheur égoïste, hypocrite, orgueilleux, comme nous l'avons vu, d'un monde sans Dieu. Je ne peux pas ici m'empêcher de penser que c'est bien à juste titre que Marie, bénie entre toutes les femmes, comme Esther, dont le roi tombe amoureux plus que de toutes les femmes, est vraiment la reine du ciel. Parce que Dieu a fait le choix de Marie, parce que c'est l'humanité, Marie par excellence, qui dit oui à Dieu, qui aime en Dieu discrètement et de manière priante, tout comme Esther, eh bien oui, Dieu fait le choix de Marie plutôt que de Vasti. Dieu est le Dieu de l'amour, celui qui donne et qui reçoit, et qui se donne encore pour encore mieux donner. Voilà notre Dieu, c'est le Dieu d'Esther. Eh bien c'est ce choix que nous devons faire, nous-mêmes. Prions pour que nos frères fassent ce choix, car ils feront ce choix. À un moment ou à un autre, la grâce ayant fait son chemin, ils s'ouvriront à la vérité et se rendront compte vraiment qu'Esther est celle qui mérite d'être la reine de leur cœur, que le Christ doit être le roi de leur cœur et non pas Vasti, leur moi d'avant leur conversion. Eh bien, dans nos vies, c'est pareil, dans notre manière de lire l'Écriture, comme j'ai dit, et dans nos vies. Quand nous avons des problèmes, plutôt que d'essayer de les résoudre exclusivement par nous-mêmes, n'oublions pas notre Dieu. Et c'est justement la lecture de l'Écriture spirituelle qui peut nous aider, ce qu'on appelle aussi la Lectio Divina, cette lecture priante et dialoguante avec Dieu. Parce que par la lecture de la parole, nous aurons une autre vision que celle de Xerxès et de Vasti. Nous aurons vraiment, nous saurons où sont les vraies valeurs et où sont les vraies solutions. Et finalement, quand nous avons un problème à régler, ça ne veut pas dire que nous ne devons pas agir, mais nous devons aussi beaucoup prier, conscients que notre action ne vient qu'en appui de l'action de Dieu. Ça nous libère beaucoup de nos angoisses, parce que tout ne dépend pas de nous. Nous sommes là que pour aider la grâce qui est toute efficace et qui est première. Donc pensons à ça quand nous avons des problèmes, et nous-mêmes faisons ce choix, et faisons ce choix aussi de vivre la parole, de la lire avec ce regard d'Esther, ce regard de la Vierge Marie, cette lecture priante et spirituelle qui sera une véritable nourriture et qui nous donnera une autre vision de la vie, cette vision d'Esther et non de Vasti et de Xerxès. Oui, comme Mardoché, sachons adopter Esther dans notre vie, dans notre stratégie pour amener le Christ aux autres, et dans nos manières de gérer nos problèmes, et dans notre manière de lire la parole. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est un petit temps de prière, si vous le voulez bien. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix. Et enfin, je vous laisserai un nouveau temps de prière pour vous permettre de faire votre cette prière. Oui, Seigneur. Comme Mardoché, nous adoptons Esther, nous adoptons ton fils. Oui, Seigneur, nous te demandons de nous apprendre à aimer, à ton image, gratuitement, à savoir donner gratuitement et recevoir de nos frères sans orgueil en toute humilité. Apprends-nous cet amour, ô Dieu Trinité. Nous te demandons, Seigneur, oui, nous adoptons ton fils, nous adoptons Esther. Nous te demandons vraiment d'amener les frères que nous avons maintenant dans notre cœur, de les amener à toi. Oui, que ta grâce travaille en eux. Oui, Seigneur, nous te confions nos frères loin de toi. Et nous te demandons, Seigneur, de nous aider à les aimer en prolongement de notre prière. Oui, aide-nous à les aimer, ces frères pour qui nous venons de prier. Nous prions aussi pour ce monde, Seigneur, qui se détourne souvent de toi. Le message de ton Église est peu entendu, mais nous sommes conscients, vraiment, Seigneur, que si l'Église adopte le comportement d'Esther, et cette période est une période de purification, eh bien ton Église, si elle adopte les armes d'Esther qui sont amour et prière, et abandonne sa soif de pouvoir qu'elle a eue parfois durant l'histoire, eh bien nous sommes convaincus, bien loin de baisser les bras, nous sommes convaincus et nous prions pour cette Église, que son message finira par être entendu dans ce monde. Oui, Seigneur, aide ton Église à être toujours davantage aimante, pauvre et priante. Alors oui, Seigneur, nous en sommes convaincus. Un jour, les églises seront trop petites parce que les gens auront tellement soif d'entendre ta parole relayée par ton Église, pauvre et servante, à l'image d'Esther et de la Vierge Marie. Et enfin, Seigneur, aide-nous à lire ta parole avec Esther dans le cœur, avec le Christ rivé à notre esprit, lui qui est au centre des Écritures. Oui, Seigneur, nous te demandons par ton esprit de nous aider toujours à découvrir les perles que tu recèles pour notre vie dans l'Écriture. Alors, comme nous venons de le voir dans la prière, il y avait bien sûr un aspect que j'avais oublié de mentionner, mais cette Esther, finalement, que Mardoché adopte, oui, notre Église connaît une période difficile, où son message n'est plus audible. Eh bien, notre Église, c'est une période de purification, où, comme Mardoché, elle va adopter Esther de plus en plus, elle va devenir humble, pauvre, aimante et priante, et alors son message va vraiment aller dans le cœur de nos frères. Oui, c'est tant mieux quelque part parce que elle abandonne un peu cette prétention pouvoir qu'elle a parfois eue dans l'histoire. Eh bien, plutôt que de nous décourager, réjouissons-nous et soyons convaincus que la grâce de Dieu fera son chemin par cette Église qu'il n'abandonnera pas, mais qu'il purifie. Alors après cette précision, j'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, chers internautes. Free audio post-production by Alphonic.com.